Alors, bonjour à tous, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Donc déjà, des bonnes salutations de l'Église évangélique de Colonier, où je suis pasteur et où votre pasteur se trouve ce matin pour prêcher. On fait un échange de chair et c'est un plaisir de consolider nos relations et de pouvoir se retrouver comme ça. À part ça, on vit dans une époque où il se passe beaucoup de choses et beaucoup de choses qui peuvent un peu nous inquiéter. On a déjà mentionné les incendies à Los Angeles. Il y a toute la question du climat, il y a les guerres en cours, il y a différentes instabilités politiques. Et puis, un grand événement qui a aussi beaucoup touché des gens, c'est l'élection de Donald Trump aux États-Unis. On entendait qu'il y avait des personnes qui souffraient d'anxiété suite à cette élection. Et puis, quand je préparais cette prédication, je me disais, OK, il se passe des choses, ça a l'air de toucher des gens. Est-ce qu'il faudrait en parler? Mais en même temps, en tant que prédicateur chrétien, on n'est pas là pour faire un commentaire d'actualité, on n'est pas là pour parler politique. Et puis du coup, je me suis dit qu'il fallait en parler sans en parler, qu'il fallait en parler pour dire pourquoi c'était finalement pas ça le plus important. Et on va le faire en partant d'un texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, à partir des versets 7 et 8. Donc là, on est dans les tout premiers temps de l'Église à Jérusalem. On est quelques jours, peut-être semaines après la Pentecôte. Les apôtres Pierre et Jean viennent de faire un miracle manifeste. Il y a un mendiant qui était handicapé, qui était paralysé, qui mendiait depuis longtemps devant le temple et qui a été guéri par Pierre et Jean au nom de Jésus. Et là, ce qui se passe, c'est que les autorités religieuses juives ne sont pas contentes parce que ça fait du bruit, on en parle, et le nom de Jésus est annoncé. Et du coup, les autorités se saisissent de Pierre et Jean et ils doivent comparaître devant les chefs du peuple juif, devant les grands prêtres, les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens très importants. À partir du verset 7, je lis le texte. « Ils firent ramener les apôtres devant eux et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, « Chef du peuple et ancien, on nous interroge aujourd'hui à propos du bien fait à un infirme. On nous demande comment cet homme a été guéri. » Eh bien, sachez-le, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Jésus est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la pierre d'angle. Le salut se trouve uniquement en lui, car nulle part dans le monde il n'a été donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Les membres du conseil étaient très étonnés, car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendaient compte en même temps que c'était des gens simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Mais ils voyaient aussi celui qui avait été guéri, qui se tenait auprès d'eux, et ils ne trouvaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent alors de sortir de la salle du conseil et se mirent à discuter entre eux. Ils se disaient, « Que ferons-nous de ces gens ? Car tous les habitants de Jérusalem savent clairement que ce signe extraordinaire a été réalisé par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que la nouvelle de cette affaire se répande davantage parmi le peuple. » Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne parlent plus à qui que ce soit du nom de Jésus. Ils les rappelèrent et leur interdirent catégoriquement de prononcer ou d'enseigner le nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Les membres du conseil les menacèrent de nouveau, puis les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les punir, car tout le peuple louait Dieu de ce qui était arrivé. Celui qui avait été miraculeusement guéri était en effet âgé de plus de 40 ans. Dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens avaient dit. Après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un même cœur cette prière à Dieu. « Maître, c'est toi qui as créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par l'Esprit Saint, as fait dire à David, notre ancêtre et ton serviteur. Les peuples se sont agités, mais pourquoi? Les pays ont comploté, mais c'est en vain. Les rois de la terre se sont préparés au combat et les dirigeants se sont unis contre le Seigneur et contre le roi qu'il a mis à part. Et c'est bien vrai, Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des populations étrangères et du peuple d'Israël contre ton serviteur Jésus, celui que tu as choisi pour ton service. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Démontre ta puissance par des guérisons, que des signes extraordinaires et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton serviteur Jésus, lui qui est saint. Et tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, Pierre et Jean se trouvent dans une situation intimidante. Ils sont convoqués par les chefs de leur peuple et interrogés. Au nom de qui est-ce que vous avez fait cette chose, cette guérison? Et tout de suite, Pierre et Jean disent, c'est au nom de Jésus. Ils n'essayent pas un instant de dire, c'est nous qui sommes très forts, c'est nous qui sommes puissants, c'est nous qui sommes des gens très pieux, et parce qu'on est proche de Dieu, on a fait cette guérison. Non, ils savent que tout ce qu'ils ont pu faire, c'est grâce à Jésus, et c'est ça qu'ils répondent immédiatement. Et ils n'essayent pas de dorer la pilule, ils disent, on l'a fait au nom de ce Jésus que vous avez rejeté et que vous avez crucifié. Donc ils n'essayent pas d'être gentils avec les chefs des prêtres, avec les chefs du peuple. Ils disent, c'est au nom de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Donc c'est Jésus qui leur a donné le pouvoir d'agir et c'est sur Jésus qu'ils s'appuient. Il souligne eh bien, que si les chefs du peuple ont rejeté Jésus, eh bien, Jésus est tout de même devenu la pierre d'angle, le point d'appui de tout le bâtiment, celui sur lequel reposent les plans de Dieu et repose toute leur assurance, tout le plan de Dieu. Et il souligne aussi le salut se trouve uniquement en lui, car nulle part dans le monde il n'a été donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Jésus est le seul sauveur, le seul par lequel on puisse être sauvé. Et ça vaut la peine d'être rappelé. En revenant aux élections américaines, je crois qu'il y a eu aux États-Unis beaucoup de gens qui avaient peur. Ils avaient peur des migrants, ils avaient peur des changements de société, ils avaient peur que l'Amérique perde sa place dans le monde, perde son statut, que l'Amérique devienne négligeable. Et ils ont cru que Trump pouvait les sauver. Et d'autres ont eu peur de Trump et ont cru que Kamala Harris pouvait les sauver de Trump. Et là-dedans, on voit un problème, ce qu'on peut appeler de l'idolâtrie négative. L'idolâtrie en tant que telle, c'est prendre quelque chose qui n'est pas Dieu et lui donner la place de Dieu. Prendre quelque chose qui ne nous a pas créé, qui ne peut pas nous sauver, qui ne peut pas donner sens à notre vie, et attendre d'elle qu'elle nous sauve, qu'elle donne un sens de notre vie, qu'elle lui donne finalement la place la plus importante dans notre vie. Et l'idolâtrie négative, c'est penser que quelque chose est le problème le plus important, celui qu'il faut absolument régler. Et quand on se trompe de problème, on se trompe de sauveur. Le vrai problème de l'humanité, c'est le problème du péché, du mal que nous commettons. C'est le problème de la séparation avec Dieu qui entraîne la mort. Et qui entraîne la mort et la séparation éternelle avec Dieu dans l'éternité à venir, si le problème n'est pas réglé. Et Jésus, par sa mort, a réglé le problème du péché. Et par sa résurrection, il a montré qu'il avait réglé le problème de la mort. Jésus est venu réconcilier l'humanité avec Dieu. C'est le seul qui pouvait le faire. Il fallait un être humain pour éliminer le péché d'humanité. Il fallait quelqu'un de parfait et de saint pour pouvoir mourir pour les péchés des autres et non pour ses propres péchés. Et Jésus est le seul être humain qui ait vécu une vie parfaite. Jésus est le seul qui soit à la fois un homme pour pouvoir payer notre dette et Dieu pour être parfait, avoir une vie d'une telle valeur qu'elle puisse payer la dette de l'humanité entière. Et c'est pour cela qu'il n'a pas été donné aux hommes d'autres noms par lesquels nous puissions être sauvés. Mais quand on se trompe de problème, quand on pense que c'est plus important d'assurer notre prospérité économique, de travailler pour la gloire de notre pays, de nous permettre d'avoir une belle maison avec une piscine, ou que sais-je, quand on se trompe de problème, quand on se trompe d'objectif, eh bien on se trompe aussi de sauveur. Alors, les apôtres, eux, sont très au clair sur le fait que le sauveur, c'est Jésus, et qu'ils veulent annoncer son nom. Mais les chefs du peuple juif voudraient les en empêcher. Ils les menacent, ils leur interdisent de parler au nom de Jésus. Et c'est des autorités légitimes dans le peuple d'Israël. Si on est convoqué par le Conseil fédéral et qu'ils nous disent ben « maintenant vous ne faites plus ça », a priori, on est tenté, notre première réaction ce serait de obéir. Mais Pierre et Jean savent très bien que Dieu les appelle à annoncer le nom de Jésus et qu'ils doivent obéir à Dieu plutôt qu'aux autorités, même les plus grandes autorités de leur peuple. Jugez-vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils ont vu Jésus sur cette terre, ils ont vu Jésus enseigner, ils ont vu Jésus guérir les malades, ils ont vu Dieu marcher parmi les hommes, ils ont vu Jésus mourir pour nos péchés, ils ont vu Jésus ressusciter, manifester sa victoire sur la mort. Ces choses sont tellement importantes, tout le monde a besoin de le savoir, ils ne peuvent pas ne pas en parler. Et les chefs du peuple renouvellent leurs menaces en essayant de les empêcher de parler de tout cela. Mais Dieu a manifesté sa puissance d'une telle manière qu'il n'ose même pas les punir plus que les menacer, parce que tout le monde a vu ce que Dieu a fait avec l'infirme qui se tenait devant le temple, et qu'ils savent que ça va créer du grabuge s'ils punissent ceux qui viennent de guérir ce pauvre infirme qui était malade depuis si longtemps. Et sortis de là, Pierre et Jean retrouvent les autres croyants de Jérusalem et leur racontent tout ce qui s'est passé. Alors, comme on le ferait certainement à leur place, ils se mettent à prier. On peut se demander si on prierait exactement de la même manière qu'eux. Ils commencent en rappelant qui est Dieu. « Maître, c'est toi qui as créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Il se rappelle que Dieu est le Tout-Puissant, qu'il est celui qui a tout fait, qu'il est celui qui a plus d'autorité que n'importe qui d'autre. Et ils font ça plutôt que de se lamenter, de dire « Ah, mais Seigneur, tu vois comme ils sont méchants, tu vois comme on est petit, tu vois comme on a peur. » Non, ils ne regardent pas à leur petitesse, ils ne regardent pas à leur détresse, ils ne regardent pas à leur peur. Ils regardent à Dieu, à celui qui a tout fait. Et je crois que quand on se rappelle de qui est Dieu, on a beaucoup moins besoin de savoir qui est président des États-Unis ou Premier ministre de France, quand on arrive à suivre. Et ensuite, ils poursuivent avec une citation des psaumes. « Les peuples se sont agités, mais pourquoi ? Les pays ont complanté, mais c'est en vain. Les rois de la terre se sont préparés au combat, et les dirigeants se sont unis contre le Seigneur et contre le roi qu'il a mis à part. » Et ce qui est traduit dans cette version-là par « mis à part », ce qu'on traduit aussi par « oint », par « Messie », par « Christ ». Donc « Messie » en hébreu, « Christ » en grec, mais c'est le même sens. Et il souligne que, effectivement, Hérode et Ponce Pilate, les autorités de l'époque, se sont liguées contre Jésus, contre celui que Dieu a choisi comme Messie, comme celui que Dieu a choisi pour accomplir sa volonté. Et si on regarde qui était Hérode et Ponce Pilate, c'était des hommes puissants. C'était des hommes violents, c'était des hommes immoraux. C'était pas des gens qui étaient fondamentalement mieux que Trump ou que Vladimir Poutine ou que n'importe qui d'autre. Et ces gens se sont ligués contre Jésus. C'est très intéressant ce que les apôtres disent. Ils disent, ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Donc, les grandes puissances de l'époque peuvent se liguer contre Jésus, contre Dieu, pour finalement n'arriver à accomplir que ce que Dieu avait prévu et décidé qu'il se passerait. Parce que Dieu reste le souverain de l'histoire des hommes. Et parce que la mort de Jésus sur la croix n'est pas un accident de l'histoire. Ce n'est pas un moment où Dieu a perdu le guidon et... Où tout est parti dans les décors, où Jésus serait mort parce que Dieu n'avait pas su le protéger. Mais Jésus est mort parce que c'était le plan de Dieu qu'il meure pour nos péchés à notre place, pour que nous soyons sauvés. Et si à l'époque, les puissances du monde n'ont pas pu faire autre chose que ce que Dieu avait prévu et décidé, alors qu'il faisait du mal, il faisait du mal avec des mauvaises intentions, mais Dieu reste en contrôle et même les mauvaises actions des hommes, il les utilise pour sa gloire et pour son plan. Et puis finalement, qu'est-ce que les apôtres demandent après avoir rappelé tout ça? Alors, ils demandent à Dieu d'être attentif aux menaces des autorités juives. Ils confient ça à Dieu et ils demandent à Dieu de s'en occuper. Ils n'oublient pas quelle est la circonstance. Mais surtout, ils demandent de donner, ils disent, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils ne demandent pas de changer de gouverneur romain, ils ne demandent pas de changer de tétrarque de Galilée. Ils ne demandent pas d'avoir une assurance tout risque contre les menaces des chefs, mais ils demandent l'assurance de continuer à annoncer la parole de Dieu. Parce que c'est leur mission. C'est notre mission. C'est la mission de l'Église de tous les temps, d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer le nom de Jésus-Christ, d'annoncer le salut qui se trouve en Jésus et en aucun autre. Donc ce qu'il demande, c'est de ne pas se laisser arrêter par les menaces, de ne pas se laisser arrêter par ceux qui leur disent de ne pas parler au nom de Jésus. Et d'ailleurs, dans notre époque, on entend de plus en plus qu'il ne faudrait pas parler de notre foi. Ah, c'est privé, ça reste chez soi. C'est bien pour toi, mais il ne faut pas embêter les autres avec. Et puis, on est dans la République et canton de Genève, qui est laïque. Il ne faut pas... On a plein d'injonctions qui nous disent de rester discret, de ne pas parler de ce qu'on croit, de garder notre foi pour nous. Mais notre Dieu est plus grand que la République et canton de Genève. Notre Dieu est plus grand que tous ceux qui vont grincer des dents si on parle de notre foi avec assurance. Notre Dieu est puissant pour veiller sur nous, pour veiller sur l'histoire, pour veiller sur sa parole, pour qu'elle porte du fruit. Et les apôtres demandent aussi, « Démontre ta puissance par des guérisons, que des signes extraordinaires et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton serviteur Jésus, lui qui est saint. » Donc ils demandent aussi que Dieu montre sa puissance par des actes miraculeux qui appuient la proclamation de sa parole. Petite parenthèse, quand on pense à des miracles, à des prodiges, quand je regarde dans l'ensemble, dans la Bible et dans le Nouveau Testament, j'ai de plus en plus l'impression que les miracles, ils sont là pour attester la parole de Dieu qui est annoncée. Ils ne sont pas forcément là pour nous garantir qu'il n'y ait jamais un chrétien malade. Ils ne sont pas forcément là pour nous garantir qu'on vive une vie confortable. Ils sont là pour démontrer par des actes concrets que la parole de Dieu qu'on prêche est la vérité et que son évangile est la puissance de salut. Et si on demande, si on cherche des miracles, bien que ce soit pour la gloire de Dieu, que ce soit pour que le monde voit la réalité du message de l'évangile. Et Dieu répond à la prière des apôtres. Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La réponse de Dieu, c'est de les remplir de l'Esprit Saint. Et il faut dire de les remplir à nouveau de l'Esprit Saint. On est 2 chapitres après la Pentecôte. À la Pentecôte, ils ont tous été remplis de l'Esprit. On pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'il y a besoin qu'ils soient remplis d'Esprit s'ils ont déjà été remplis de l'Esprit à la Pentecôte? Et là, parfois, justement, on a tendance à se dire, on est rempli d'Esprit une fois, et puis après, on est rempli, et puis c'est bon. Et puis de dire, soit on a été rempli d'Esprit, soit on ne l'a pas été. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ce qu'on voit, c'est qu'on peut être rempli d'Esprit plusieurs fois, à nouveau et à nouveau. Donc que si on a vécu une expérience particulière avec le Saint-Esprit, on se dit « Ah, là, j'ai été rempli. » Eh bien, gloire à Dieu, alléluia. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus à chercher. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin que Dieu nous le renouvelle en fonction des circonstances, en fonction de ce qu'il nous appelle à faire. Et ce qu'on voit qui est caractéristique du fait d'être rempli d'esprit, c'est justement cette assurance pour parler de la parole de Dieu. L'esprit fait plein de choses en nous, et il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais une chose qu'il fait, c'est de nous équiper, nous donner de l'assurance et de nous inspirer pour parler de qui est Dieu, pour parler du salut en Jésus et pour annoncer sa parole. Alors mes amis, mes frères et sœurs, cherchons à être toujours plus rempli de cet esprit pour annoncer la parole de Dieu avec assurance. Rappelons-nous que quoi qu'il se passe de beau et de glorieux pour la gloire de Dieu, ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas parce que nous on est fort et qu'on est puissant, d'ailleurs on ne l'est pas, donc ça tombe bien, mais c'est à cause du nom de Jésus. parce que Jésus est le Fils de Dieu, parce que Jésus est le Sauveur, parce que Jésus est celui qui a vaincu le péché et la mort. Rappelons-nous quel est notre vrai ennemi. Notre vrai ennemi, c'est le péché, c'est la mort et c'est Satan. Et comme Paul le décrit dans la lettre aux Éphésiens, on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, donc ni contre des autorités politiques ici, ni ailleurs, ni contre les islamistes, ni contre les laïcs, ni contre les bouddhistes, ni contre qui que ce soit sur cette terre. On a à se battre contre les puissances spirituelles et contre tout ce qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Ne nous trompons pas d'ennemis et ne nous trompons pas de sauveur, parce que Jésus est le seul qui peut nous sauver. Et prenons garde, parce que quand on se trompe d'ennemis, eh bien, on risque de se tromper de sauveur également, de penser que quelqu'un peut nous sauver alors qu'il ne le peut pas. Et puis, ne nous laissons pas intimider par toutes les injonctions qui nous disent de ne pas parler de Dieu. L'Évangile est tellement beau, tellement précieux et tellement nécessaire pour tous que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ne nous trompons pas non plus de mission. Notre mission, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Alors, faisons-le avec assurance et demandons à Dieu de nous renouveler sans cesse la puissance de son esprit, la présence de son esprit, pour annoncer avec assurance sa parole, pour qu'il se produise des signes et des prodiges quand il en a besoin, et que le plus possible de gens voient que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. Amen.